Le journal Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Ils ont été plus de 30 000 Israéliens à se recueillir hier devant le cercueil de Shimon Peres, exposé à la Knesset, le Parlement israélien. Aujourd'hui, place aux funérailles officielles avec une centaine de dirigeants du monde entier présents à Jérusalem. Les présidents américains, français, allemands, le prince Charles, mais aussi le président palestinien Mahmoud Abbas, seul représentant, a priori, du monde arabe. Car si Shimon Peres est décrit aujourd'hui comme un défenseur infatigable du camp de la paix, les voisins de l'État hébreu gardent en mémoire des épisodes plus sombres. Au Liban, par exemple, on maintient une certaine distance. Laure Stéphane nous appelle de Beyrouth.
Il n'y aura pas, bien sûr, de délégation libanaise aux funérailles de Shimon Peres. D'abord, pour la raison évidente que le Liban et Israël sont techniquement en état de guerre, les contacts officiels sont indirects. Ils se font à travers l'intermédiaire de la force de l'ONU déployée dans le sud du pays du Cèdre pour contrôler la frontière. Ensuite, parce que vu de Beyrouth, Shimon Peres n'est pas l'homme de paix célébré en Occident. Son nom est associé au bombardement de Canaan en 1996, un épisode qualifié au Liban de massacre. Dans cette bourgade du sud du pays, plus de 100 civils ont été tués par des frappes israéliennes lors de l'opération Raisin de la colère lancée par l'État hébreu. Shimon Peres était alors Premier ministre. Peu après les faits, une enquête de l'ONU avait affirmé qu'il était très peu probable que le bombardement ait été le fruit d'une erreur. À l'annonce de la mort de l'ancien président israélien, les rares réactions officielles au Liban ont été cinglantes. Un ministre a dénoncé, je cite, « les crimes de Shimon Peres contre les Arabes et les Palestiniens ». Quant aux médias locaux, plusieurs d'entre eux dépeignent l'ancien chef d'État comme, je cite à nouveau, « l'auteur de Cana ou le parrain de la colonisation en Cisjordanie ».
La guerre en Syrie cette fois et les relations toujours plus tendues entre les Russes et les Américains, soutien respectif du régime de Bachar al-Assad et de l'opposition. Hier soir, Washington était sur le point de rompre la coopération diplomatique si les bombardements ne cessaient pas au-dessus de la ville martyre d'Alep, cible des frappes du pouvoir syrien et des Russes. Avoir intégré les rangs des djihadistes en Syrie, puis en revenir, c'est l'histoire d'une jeune Belge, Laura Passoni. Elle a un jour tout quitté avec son fils de 4 ans pour y suivre son nouveau mari. Une fois sur place en Syrie, elle déchante et supplie ses parents de l'aider à rentrer en Belgique. Condamnée par la justice, aujourd'hui, elle veut faire de la prévention et raconte son histoire dans un livre, « Au cœur de Daesh, avec mon fils ». Lakshmi Lotha l'a rencontré.
Les recruteurs du groupe État islamique ont profité de ma faiblesse à l'époque, explique Laura Passoni. Il y a 2 ans, fragilisée par une rupture amoureuse, elle rêve d'une vie meilleure en Syrie. Des vidéos de propagande et une rencontre avec son futur mari sur Facebook la conduisent à franchir le pas avec son fils de 4 ans.
Dû à ma déception amoureuse, j'ai voulu partir, dû qu'on m'a vendu du rêve, le recruteur m'a vendu du rêve. Je voulais aider le peuple syrien, je voulais être infirmière. Et je pensais que là-bas, c'était vraiment pour les aider et que les djihadistes étaient des héros. Donc je me suis dit, bah, après ma rupture aussi, je vais reprendre ma vie à zéro là-bas.
Très vite, la jeune femme, enceinte d'un deuxième enfant, déchante et appelle ses parents pour l'aider à rentrer en Belgique.
Tout ce qu'il m'avait promis, c'était faux. Et puis moi, c'est beaucoup mon fils, en fait. Hein. Je voulais pas qu'il devienne terroriste, je voulais pas qu'il fasse un attentat suicide. Et puis tout ce qui est aussi moi, ma liberté, l'hygiène, on meurt de faim, je peux pas sortir quand je veux. Et on était vraiment libre qu'à procréer, à faire des enfants, à se taire. Et c'était pas la vie que je voulais.
Elle dit vivre désormais un islam apaisé. Ce livre, c'est aussi pour ses fils qu'elle l'a écrit.
Donc maintenant, mon fils le sait que je fais un livre, hein, parce que j'en ai demandé son avis, parce que je voulais savoir ce qu'il en pense. Quand il me voit dans le journal ou à la télé, il est très fier de sa maman parce qu'il me dit que voilà, c'est pour le bien.
Vous lui avez expliqué donc ?
À mon grand, oui, j'ai tout expliqué.
Laura Passoni pense que la déradicalisation est possible. Elle souhaite à présent faire de la prévention pour dissuader d'autres jeunes femmes de partir en Syrie.
6h34 sur France Culture, la suite du journal avec vous Amélie Perrier et la COP21 qui porte ses fruits. En tout cas, jamais un accord sur le climat n'avait été sur le point d'être ratifié aussi rapidement.
Oui, les ministres de l'environnement européen ont rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles pour se mettre d'accord sur la ratification de l'accord de Paris. Le texte pourrait ensuite passer au Parlement européen mardi prochain. Une ratification in extremis pour l'Europe pour être en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique. Anne-Laure Barral.
Même si la Pologne traîne encore des pieds parce qu'elle ne veut pas réduire sa consommation de charbon, la ministre de l'Environnement et présidente de la COP21, Ségolène Royal, estime que cette réunion s'annonce sous les meilleurs auspices. Les ministres, c'est vrai, ont trouvé un tour de passe-passe pour ratifier l'accord, d'abord au niveau européen, avant que tous les parlements nationaux des États membres ne l'aient fait. Il faut dire que ce serait un comble que l'Europe ne monte pas dans le train des champions du climat. Elle, qui a toujours été la plus ambitieuse, c'est la seule à respecter les engagements du protocole de Kyoto. Pourtant, aujourd'hui, certains Européens laisseraient bien la main aux États-Unis et à la Chine. Même l'Inde, plutôt réticente dans les négociations, doit ratifier l'accord de Paris dans 2 jours. Si les ministres européens s'entendent et que le Parlement ratifie, le compte est bon. L'accord sera approuvé par plus de 55 pays, représentant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Ouf, il était moins une. La date limite pour le faire, c'est le 7 octobre.
Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert hier le Mondial de l'Automobile à Paris, journée pour les professionnels. Le public sera accueilli à partir de demain. En vedette cette année, les voitures propres, les véhicules électriques, festival de nouveautés et de prototypes pour un secteur en plein rebond. Après la profonde crise entre 2008 et 2013, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de plus de 6% cette année en France et de plus de 8% dans l'Union européenne. C'est un autre moyen de déplacement propre, mais là aussi encore cher, le train et en particulier les lignes à grande vitesse. Un groupe de sénateurs a lancé l'idée hier de geler le financement des nouvelles lignes rapides en France pendant au moins 15 ans pour relever les comptes de la SNCF. La dette ferroviaire dépasse aujourd'hui les 52 milliards d'euros. Alors les projets entre Bordeaux et Toulouse, entre Poitiers et Limoges ou encore entre Montpellier et Perpignan représenteraient des investissements excessifs. Écoutez l'avis du professeur Yves Crozet, auditionné par la commission des sénateurs.
Ce sont des gains de temps, mais quand les trafics sont de modeste importance, eh bien, les gains des usagers ne couvrent pas les coûts de construction. Aujourd'hui, beaucoup d'élus continuent à rêver d'un tunnel, d'une autoroute, d'un TGV. Beaucoup d'élus ont encore la nostalgie des schémas directeurs, la période des années 70. Mais à l'époque, quand on faisait un projet de TGV, il était financé puisque c'était la dette de la SNCF qui prenait ce projet. Aujourd'hui, quand on fait des projets de LGV, il n'y a pas d'argent en face. À cause de ce renouvellement, la dette de SNCF Réseau augmente de 1,5 à 2 milliards par an. Donc il faut d'abord régler le problème de cette dette. Il faut que ces ressources servent d'abord à la régénération et au renouvellement du réseau et pas à lancer des projets dont la rentabilité est très faible. Il faut mettre fin à ce processus de fuite en avant dans les infrastructures et il faut mettre en face à la fois un budget et des projets pour lesquels on a l'argent. Le rapport du Sénat ne fait que constater le fait que nous n'avons pas les moyens de réaliser les 4000 km de lignes TGV qui étaient inscrites dans le Grenelle de l'environnement. On n'empêchera pas les grands élus nationaux de vouloir arroser leur territoire avec un TGV, avec un tunnel. Le problème, c'est de savoir quelle discipline budgétaire on met pour empêcher ce genre de folie.
Le spécialiste de l'économie des transports, Yves Crozet, professeur à l'Université de Lyon, il répondait à Hélène Masquelier. Le temps de ce vendredi, l'automne arrive, au moins sur la moitié nord, avec de la pluie. Au sud, ça reste ensoleillé. Les températures ce matin, elles vont de 10 à 14 degrés. Cet après-midi, on prévoit 18 à Paris, 19 degrés à Calais et à Quimper, 25 à Lyon et à Bastia, 25 aussi à Marseille et 26 degrés à Biarritz.